Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle édition du Carnet de région, le magazine d'actualité collaboratif des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon. Au sommaire de ce 20e numéro, le mouvement contre le projet de loi travail se poursuit. Radio Escapade s'est rendue à la manifestation du jeudi 19 mai à Alès. On restera ensuite à Alès en compagnie de Radio Grille Ouverte qui se fait l'écho de la journée pour le mieux vivre ensemble qui se prépare. De l'autre côté des Cévennes gardoises, le collectif Accueillir à Valrog soutient une famille albanaise sans papier, menacée d'expulsion et en danger dans son pays d'origine. Radio Escapade donne la parole aux membres du collectif. Le carnet de région met également à l'honneur la culture avec l'exposition universelle à Aigues-Mortes, chroniquée par Delta FM, et la comédie du livre de Montpellier, annoncée par RCF Maguelon Hérault. Ce jeudi 19 mai, une nouvelle journée d'action contre la loi El Khomri était appelée dans la rue. Radio Escapade est allée à la rencontre des manifestants à Alès.
Cette loi travail, en fait, est un recul et absolument pas un progrès, même si elle est présentée comme une loi visant à moderniser. Alors la modernité aujourd'hui dans le monde du travail, c'est le jumping des travailleurs. Et donc, en fait, moi personnellement, je suis contre cette société inégalitaire. Donc pour moi, il faut abolir cette société inégalitaire parce que je pense que justement, aujourd'hui, avec tous les moyens dont on dispose et les avancées notables, que ce soit dans les technologies ou dans la pensée, on a autre chose à vivre en fait qu'une société accaparée par un certain nombre de groupes. Cette loi, c'est un symptôme, c'est pas la maladie.
Il y en a marre de l'oppression du gouvernement, ils veulent nous réduire à rien du tout. Cette loi, elle est faite pour assouvir le peuple et engraisser encore les plus gros. Et donc, on n'en veut pas. On n'en veut pas et c'est la fin de tout, là, pour le petit. C'est la fin de tout pour le petit. Il arrive un moment, il faut que les gens prennent conscience qu'il faut descendre dans la rue et renverser tout ça.
J'imagine que vous le faites depuis le début, oui. De ce mouvement contre la loi El Khomri.
Depuis le début, oui. Depuis le début, bien avant qu'elle passe.
Vous êtes syndiqué vous-même ?
Oui, je suis délégué CGT.
D'accord. Dans quelle branche vous travaillez ?
Dans le commerce.
Alors, il y a eu une altercation tout à l'heure avec des policiers en civil. Vous êtes allé vers eux pour discuter avec eux.
Eux, ils sont là. On les oblige. Et ils m'ont confié qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils sont traités n'importe comment par leur hiérarchie, par leur gouvernement. Ils font des heures supplémentaires pour presque rien. Ils sont d'accord avec nous, mais seulement ils ont des ordres, ils sont obligés de venir. Les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Oui, il faut s'en prendre à ce que l'État représente, admettons les mairies, tout ça, mais il ne faut pas ça aux préfectures. Mais ceux qui sont dans la rue, malheureusement, on les oblige. Et comme il me disait le flic, là, il me disait, mais il est d'accord avec nous. C'est un gars qui est d'accord avec nous. Il galère comme nous. Qui désébouillissent et qui viennent avec nous. Oh, je pense qu'il y en a qui nous rejoindront à force quand même. Pour l'instant, on n'est qu'au début là. On n'est qu'au début.
Travailler jusqu'à je ne sais pas quelle heure, moi je ferai pas ça. Parce que j'ai envie d'avoir une vie et j'ai pas envie de bosser.
Un avenir.
Mais j'ai envie d'avoir un avenir et bosser comme je fais pour avoir le bac, c'est pas pour finir à faire des heures, je sais pas, ça me...
Et alors comment ça se passe, préparer le bac et continuer à se mobiliser?
Ce matin il y avait manifestation, j'étais là, cet après-midi j'ai un oral, je serai à mon oral. Je peux tout aussi bien à la fois réviser, faire mes révisions et puis venir aux manifestations. Ceux qui disent « ouais, il y a le bac, je peux pas me mobiliser », c'est juste une excuse parce qu'aujourd'hui il y a le bac, demain il y aura les examens, demain il y aura le travail, donc il y a toujours une excuse. On peut être asservi et puis trouver toujours une excuse pour pas se mobiliser justement.
Le gouvernement nous ignore, il nous bâillonne, il en a rien à foutre de ce qu'on pense. Et il veut nous imposer une loi en fait qui va nous mettre encore plus dans la précarité. Et nous on veut pas, on en a marre de se faire marcher dessus, on en a marre de se faire prendre pour des pions. Eux, ils ont la vie grand luxe, ils prennent des décisions pour les plus pauvres, mais en fait ils pensent jamais à eux qui sont hyper privilégiés. Donc à un moment donné ça commence à bien faire.
Vous parlez de précarité, c'est quelque chose que vous subissez déjà, la précarité ?
Oui, c'est quelque chose que je subis déjà. En fait, moi, je suis saisonnière. En fait, il faut savoir que quand on est saisonnier, quand on fait des heures sup, la plupart des patrons refusent de les payer. Eux, ils préfèrent en fait les étaler sur la saison, ce qui fait que nous, on fait un travail supplémentaire à un moment où on a déjà donné beaucoup de notre force. on fait un travail supplémentaire et eux refusent de nous le payer normalement, c'est-à-dire en fonction des heures qu'on a déjà faites. Donc c'est pas normal. Après, on subit des pressions si on demande à être payé normalement.
Comment ça se passe sur Alès, le mouvement? Comment ça se structure?
Le mouvement, en fait, il y a une AG de lutte tous les lundis à 18h30 à la Bourse du Travail. Cette AG de lutte, on décide en fait des actions qu'on va mener pour lutter contre la loi travail.
Et là, vous y retrouvez lycéens, salariés, chômeurs, syndiqués ou non?
Tout le monde est invité à rejoindre l'Assemblée pour lutter en fait ensemble contre les décisions du gouvernement.
On appelle qu'un mouvement social, c'est sur le long terme. C'est que le commencement d'un long cheminement.
1000 personnes se sont mobilisées à Alès ce jeudi 19 mai contre la loi travail. Le mouvement s'y construit au-delà des syndicats par une assemblée générale de lutte ouverte à tous qui se réunit chaque lundi à 18h30 à la Bourse du Travail. C'était un reportage de Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade. Le 28 mai à Alès aura lieu la deuxième journée du Mieux Vivre Ensemble, organisée par le collectif Mieux Vivre Ensemble. Un réseau citoyen, associatif, culturel et cultuel qui s'est enrichi cette année de nombreuses associations du territoire alésien. Pierre Pradel, diacre de l'Église catholique, est l'un des premiers participants aux rencontres du collectif.
C'est un réseau citoyen composé d'associations culturelles, sociales, de croyants, de non-croyants, de femmes, d'hommes, quelles que soient leurs origines, leur nationalité, qui se sont engagées pour le mieux vivre ensemble. Leur objectif commun, mieux se connaître, se comprendre et s'enrichir des différences de l'autre en débattant des sujets qui les interpellent. Ce réseau a une histoire qui a démarré le 23 mars 2013 avec la création d'un groupe de parole qui visait et qui vise encore à favoriser l'échange entre croyants et non-croyants sur les questions de société. Cela a donné lieu de mai 2013 à mars 2015 à des rencontres régulières et à des questionnements tels que « qu'est-ce que le mieux vivre ensemble ?», la notion d'identité, les politiques sociales, la place des religions dans l'espace public, la montée du terrorisme. Tout cela, ça a été des sujets d'échange et de débat entre nous. À l'origine de ces rencontres, quelques personnes, l'imam Sanoun Kerad, le pasteur Fromont et le pasteur Daniel Bruguère, Jean-Michel Suot, Pierre Pradel, ordonné diacre entre-temps, le père Gérard Chassan, puis le père Hervé Rem. Le 2 mars 2015, après l'assassinat du photographe français Hervé Gourdain en Algérie et les attentats de Paris, ce réseau a appelé à s'élargir à des associations, des citoyens.
L'association Sésame est implantée dans le quartier des Cévennes d'Alès. Elle participe au collectif et à la journée du 28 mai. Zoubida, référente famille au sein de l'association, accompagne les habitants du quartier pour les dossiers administratifs.
Donc nous avons participé à la journée du mieux vivre ensemble qui a eu lieu l'année dernière en 2015. Des mamans, des personnes qui représentaient des actions culturelles se sont manifestées pour participer à cette journée-là. Donc c'était une journée pleine de succès puisque le public a répondu. Donc cette année, nous sommes à nouveau engagés pour la journée qui va avoir lieu le 28 mai à la salle Jules Cazot. Concrètement et logiquement, ces âmes se retrouvent dans les associations qui soutiennent cette action puisque nous cultivons le mieux vivre ensemble depuis la création de l'association en 1995. Et ça a toujours été notre cheval. Toujours à lutter pour l'acceptation des différences et comment faire pour vivre ensemble et s'accepter les uns les autres sans se poser des questions. À travers des actions culturelles et sociales qui sont organisées tout au long de l'association. Sésame, donc, c'est une crèche parentale, c'est un accueil par enfant. C'est un accueil adulte de femmes en journée, des temps d'alphabétisation pour que des personnes puissent accéder au vivre ensemble, c'est leur apprendre aussi la langue française pour qu'elles puissent s'insérer au niveau social dans la société de tous les jours et dans la vie qu'elles ont assumée avec leur famille et aussi les différentes administrations françaises. Ces âmes, cette année, s'engagent avec un atelier à cette journée du mieux vivre ensemble qui est organisée par un réseau de citoyens et quelques actions culturelles et sociales. Ce jour-là, on proposera un atelier pâtisserie. Les dames se sont désignées pour pouvoir démontrer une recette qui pourra être reproduite très facilement par les personnes qui le souhaitent et par le public qui sera là.
La deuxième journée du Mieux Vivre Ensemble, toi, moi, nous, rencontrons-nous, aura lieu à Alès le 28 mai prochain. Elle est ouverte à tous. Plus d'informations sur le Facebook du collectif Mieux Vivre Ensemble. C'était un sujet de Cathy Rouvérol de Radio Grille Ouverte. Le hameau d'Ardaïès dans les Cévennes sur la commune de Valrogue accueille depuis le mois de février Alfred, Valmira et leurs quatre enfants originaires d'Albanie. Une chance pour ce hameau, pense Pierre, qui y habite depuis 45 ans.
Ça met un peu de jeunesse dans ce village qui est vieillissant. Donc ces quatre enfants qui arrivent de l'école, qui rient, qui sautent, qui courent, qui chantent, mais de la vie dans ce village. Et ce serait bien dommage pour les Cévennes de voir qu'on refuse des gens qui veulent vivre dans nos montagnes, les mettre à la porte de la France. C'est ça, je trouve ça déplorable.
Sous la menace, la famille Margeka a dû fuir son pays. Alfred, le père, était un policier qui a lutté contre la mafia. Il a participé à l'arrestation d'un important chef de clan. En représailles, conformément à la loi du Kanoun, sorte de code coutumier parallèle aux lois, la famille du chef mafieux mène des actions de vengeance sur la famille Margeka. La semaine dernière, Alfred et Valmira se sont vus placés en garde à vue durant 5 heures à la gendarmerie de Valrogue pour leur signifier leur obligation à quitter le territoire français, dont l'acronyme est OQTF. Le collectif Accueillir à Valrogue, soutenu par des élus de la commune, des enseignants des établissements que fréquentent les enfants d'Alfred et Valmira et par des associations nîmoises de défense des étrangers, dépose une requête en annulation devant la justice. Ce lundi 16 mai, ce sont 50 personnes qui se retrouvent à l'audience du tribunal administratif de Nîmes pour soutenir les Margeka. Michel, du collectif Accueillir à Valrogue.
Nous avons accueilli à Valrogue, sur la commune de Valrogue et à Ardaïès, une famille d'Albanais avec quatre enfants qui étaient en danger, en grave danger chez eux, qui avaient déjà déposé des demandes de régularisation et qui ont été frappés d'une OQTF exécutable sous 48 heures. Donc on s'est tous mobilisés, nous tous de l'association, qui nous étions déjà mobilisés pour leur accueil à Valrogue. Et on va avoir l'audience à 14h et on espère vraiment que tous les témoignages récoltés, que ça vienne des établissements scolaires, des médecins, des habitants de Valrogue, des membres de l'association, des élus municipaux de Valrogue qui se sont engagés à nos côtés. Nous espérons très fort que tous ces témoignages vont réussir à faire pencher la balance du bon côté pour nous, c'est-à-dire celui d'accueillir des personnes qui sont en danger chez eux. Nous avons aussi un appui d'Amnesty International par le biais du groupe Amnesty Sud-Cévennes. Tout ce dossier va être remis à l'avocate qui va le remettre au juge et nous espérons vraiment très fort que le juge puisse voir cette situation et la situation de cette famille sous son angle véritable et pas seulement sous l'angle des papiers qu'il faut faire à telle date ou à telle date. Qu'on voit un peu cette affaire sur le plan humain.
Après avoir écouté la brillante plaidoirie de l'avocate maître Pascal Chabert-Masson, ajoutant au dossier que la maison de la famille en Albanie a fait les frais d'un incendie criminel, et le témoignage d'Alfred Margeka qui n'a pas pu retenir ses larmes, le juge prononce froidement le rejet de l'annulation de l'arrêté d'expulsion. À la sortie de l'audience, c'est la consternation.
Et on continue de toute façon.
Il reste bon.
Voilà, on continue parce qu'on a encore des cartes à jouer. Voilà. Et tant qu'ils sont là, nous on est là. Et comme ils resteront là, on restera longtemps.
Du fait des pressions qu'elle a subies en Albanie et de l'exil difficile de sa famille, Valmira souffre de troubles psychiatriques. Devant le tribunal administratif, son psychiatre est présent.
Moi, je suis le docteur Philippe Gasser, psychiatre et expert.
Ce que la préfecture défend dans ce dossier, avec des termes très administratifs, très, très rigoureux, je dirais, il y a peu d'humain dans tout ça, c'est de dire, oui, mais le traitement dont bénéficie Valmira peut se faire en Albanie. Alors déjà, sur ce premier point, qu'est-ce que vous avez à dire ?
Alors déjà, que c'est une procédure inique et d'autre part que les arguments sont tout à fait théoriques mais faux dans la pratique. On sait bien que maintenant, avec la réglementation qui veut que les traitements soient, qu'on se base justement et uniquement sur la disponibilité des traitements, ça ne veut pas dire qu'ils soient accessibles d'une part et ça ne veut pas dire qu'on puisse assurer la continuité d'un traitement. Or, Valmira a besoin d'un traitement régulier, continu et pour une période illimitée. Et ça, aucun organisme, et même les laboratoires, reconnaissent eux-mêmes que si les traitements sont disponibles théoriquement en Albanie, il y a des ruptures d'approvisionnement, il y a la continuité du traitement n'est pas garantie. Ce qu'il faut dire aussi pour Valmira, c'est que ce dont elle souffre, l'angoisse, la dépression, est lié aux conditions de vie en Albanie, et que la remettre en Albanie, comme pour beaucoup de gens, les remettre dans leur pays d'origine, là où a été causé le traumatisme, c'est réactiver les troubles dont ils souffrent. Donc ce n'est pas qu'une histoire médicamenteuse et encore moins de disponibilité des molécules.
Selon le QTF, la famille Margeka devrait quitter le territoire à la fin de l'année scolaire. Le collectif Accueillir à Valrhog promet de poursuivre la mobilisation pour qu'Alfred, Valmira et leurs enfants, Armand, Anissa, Valbonne et Armelda, continuent de vivre à Ardaïès. C'était un reportage de Pierre Isner Dupuis de Radio Escapade. On ouvre la page culture de ce carnet de région en restant dans le Gard. Les tours et remparts d'Aiguemortes accueillent Universel, une exposition présentée par Mélanie Arbousset de Delta FM.
Après le bois, c'est au tour du sel d'investir les tours et remparts d'Aiguemortes. Le sel qui a déjà un lien fort avec la ville, qui fait partie de son paysage. C'est le thème de cette nouvelle exposition qui allie l'art contemporain et le patrimoine. Philippe Bellaval est président du Centre des Monuments Nationaux.
Les monuments, si vous voulez, ils sont au cœur d'un territoire et l'intérêt, c'est d'intéresser et d'associer au fonctionnement, à la vie de ces monuments, des partenaires locaux, les collectivités territoriales et tous les acteurs culturels des territoires. Là, nous travaillons par exemple avec les archives départementales du Gard, le musée Médard à Lunel, voilà d'autres institutions, et puis évidemment des acteurs économiques, en l'occurrence les Salins. Si vous voulez, le sel, c'est une richesse culturelle. Il y a toute une civilisation qui s'est bâtie autour du sel, et puis c'est en même temps une richesse économique aujourd'hui encore. Donc voilà, ce sont toutes les dimensions que l'on explore, parce qu'au fond, ces monuments, ils ont une nature tellement riche qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs façons de les apercevoir, de les comprendre, de les appréhender. Et là, avec un thème comme le sel, ben c'est tout un ensemble d'aspects que l'on regroupe, que l'on recoupe, et je crois que c'est de nature à intéresser un public très large et très varié. Je suis très heureux d'ouvrir très grand les portes des sites patrimoniaux du Centre des Monuments Nationaux à la création artistique contemporaine.
Deux artistes contemporains sont invités dans cette exposition. Jean-Pierre Formica y présente des corps faits de cristaux de sel suspendus dans une tour comme une analogie à la crucifixion. L'artiste présente également un autre travail sur les personnages, l'armée de sel.
C'est la tour des Bourguignons ici. Moi, ce qui m'intéressait par contre, c'est comme j'avais travaillé un peu comme c'est l'armée chinoise, l'armée enfouie qu'on a trouvé découvrir. En fait, je travaille sur ce qu'on découvre, je travaille sur strates, je travaille sur sédimentation. Donc je travaille sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Automatiquement, il n'y a rien de tel qui était révélateur par rapport à mon boulot que d'accéder à ça. Mais moi, je m'intéressais surtout par rapport à l'accumulation. Et donc l'accumulation, bien, de suite, je me suis rendu compte que de traiter du personnage, c'était quelque chose qui pouvait affirmer une volonté. Voilà. Et quant à la technique, si vous voulez, rapidement, mais c'est de l'eau, du soleil et du vent. Et c'est quelque chose de sel, on ne le voit pas. On le voit une fois qu'il est meurtri, écrasé, où il n'a plus de solution autre que de se présenter, en fait. J'ai planté des piquets dans les Salins, une petite partie, et là, depuis une vingtaine d'années, ils me permettent, donc j'ai des piquets, j'ai un lieu comme un jardin, et je vais travailler l'été, je vais travailler des idées, et ces idées, elles sont, comme elles sont liées avec l'eau, donc j'accroche à ces piquets des éléments qui vont ni toucher, ne va pas toucher le sol, sinon ça forme des croûtes, et qui sortiront pas de l'eau, parce que ça formerait aussi des espèces de plaques qui sont pas très belles. Bref, tout ça c'est le côté technique. Donc c'est l'eau, le ciel et le vent, beaucoup de vent.
Le deuxième artiste invité est japonais Il s'appelle Motoi Yamamoto. J'ai dessiné deux installations, deux travaux autour du sel. Le premier, c'est le labyrinthe et le deuxième, c'est le jardin flottant. Ce sont des modèles symboliques de la Renaissance. Le labyrinthe est un symbole de Renaissance en Europe, mais aussi au Japon. Ma sœur est morte. Elle est morte à cause d'un cancer du cerveau il y a à peu près 20 ans. Et quand elle est morte, j'ai essayé d'accepter ça et de le recevoir. Et le sel est funéraire et c'est aussi un matériau spirituel au Japon. Alors j'ai décidé d'utiliser le sel pour mes installations. Celle-ci m'a pris à peu près 5 jours, soit à peu près 45 heures de travail. Je pense que le sel a une force pour guérir les douleurs. Pour le peuple japonais, c'est ce que pensaient les anciens et c'est ce que je pense aussi. Et c'est si beau ici, à Egmort. Et chaque fois, chaque jour que je marchais ici, à peu près 3 ou 4 fois par jour, eh bien, chaque jour, je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et j'étais très heureux.
Universel, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre. Plus de renseignements sur le www.eg-morte-monument.fr. Le rendez-vous littéraire de la 31e Comédie du Livre se tient à la fin du mois à Montpellier. Le programme a été révélé mardi dernier. Cette année, c'est l'Italie qui sera mise à l'honneur. Et pour la première fois, la manifestation prendra une dimension métropolitaine. 10 communes vont accueillir des rencontres d'auteurs dans les lieux patrimoniaux et les médiathèques municipales. Un véritable défi pour Régis Penalva, directeur de la Comédie du Livre.
C'est un défi qui est assez excitant, c'est celui de la rencontre avec de nouveaux publics et avec de nouveaux lieux. Sortir du cocon du centre-ville et évidemment continuer à aller à la rencontre de ce public du centre-ville, mais également donner l'occasion à d'autres lecteurs qui peuvent pas toujours se déplacer finalement et être présents sur la Comédie du Livre, de venir à la rencontre d'auteurs. Alors on a une programmation d'une douzaine de rencontres dans une douzaine de communes autour de Montpellier, à la fois grâce aux médiathèques, des bibliothèques municipales, mais aussi des lieux de prestige, je pense au château de Castries ou au site archéologique de la Tara. Et nous leur envoyons, entre guillemets, des écrivains vraiment extrêmement prestigieux, puisque Nathalie Azoulay, par exemple, qui a eu le prix Médicis 2015 avec son roman Titus n'aimait pas Bérénice, sera à Castries le dimanche. Didier Dedinx, qui est quand même une grande star du roman noir français, sera lui à Lattes le samedi. Voilà, c'est l'occasion aussi de conquérir de nouveaux territoires et peut-être de nouveaux lecteurs.
De nouveaux territoires que l'auteur Maëlys de Kerangal a dû s'approprier. C'est elle qui a eu droit à la carte blanche cette année, comme l'explique Régis Penalva.
L'importance pour Maëlys, c'était de faire signe, je reprends ses propres mots, à des auteurs qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs, et dont elle pensait que leur œuvre entrait en accord et en écho avec ses propres préoccupations romanesques. Donc elle a invité autour d'elle 7 à 8 écrivains, parmi lesquels quand même le prix Goncourt 2012, Jérôme Ferrari, mais pas seulement, à venir dialoguer avec elle et souhaiter inscrire cette programmation dans Montpellier, puisque ce n'est pas une programmation hors sol qu'elle vient coller, plaquer à Montpellier. Donc elle est venue visiter Montpellier une journée entière, visiter des lieux, et elle a retenu le conservatoire d'anatomie de la faculté de médecine, et là il y aura une belle rencontre autour de la science et de la place de l'imaginaire scientifique au cœur de ses propres romans et de ceux de Olivia Rosenthal, et puis une rencontre au Jardin des Plantes avec quatre filles au jardin. Elle convoque autour d'elle quatre romancières pour discuter de la question du paysage, de la question du lieu, de la question de l'espace dans la fiction romanesque contemporaine.
Des propos recueillis par Thomas Loré de RCF Maguelonero, la Comédie du Livre se tient du 27 au 29 mai prochain sur la métropole de Montpellier. Merci pour votre écoute de ce Carnet de Région, le magazine collaboratif des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon, réalisé et présenté cette semaine par Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade, revient la semaine prochaine. Bonne suite à vous sur votre radio, à très bientôt.
Carnet de Région, héros.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.